RCF.
Ouais. Bonjour, je m'appelle Guillaume de Coningue, j'ai 33 ans, je suis originaire de la métropole lilloise, je n'ai pas encore d'enfant mais j'y travaille ardemment et je suis chef d'entreprise de la société L'Éco-Village et l'objectif qui me caractérise le plus aujourd'hui et surtout pendant la crise sanitaire en tant que chef d'entreprise ce serait la résilience.
Bonjour Guillaume de Coningue, bienvenue dans nos studios de RCF Hauts-de-France dans l'émission Le Tour de la Question. Alors Guillaume, je vous rappelle le principe de l'émission, vous avez en face de vous une boîte avec des questions que vous allez devoir piocher au hasard. Je vous remets le joker que vous pouvez utiliser à chaque instant et pendant 25 minutes, nos auditeurs découvriront un entrepreneur atypique avec une activité professionnelle méconnue qui s'appelle l'aquaponie, qui est un art de faire pousser des plantes grâce à l'élevage de poissons, mais on va y revenir dans quelques instants. Bienvenue dans l'émission décalée où l'invité s'auto-interview. Vous êtes bien sur RCF Hauts-de-France dans le tour de la question avec cette semaine Guillaume de Coningue, président et fondateur de l'Éco-Village qui produit des aliments d'excellence grâce à l'aquaponie.
Le tour de la question, Maxime Delcourt.
Dans la première partie de l'émission, je vais essayer de retracer les grandes étapes de votre parcours. Guillaume, n'hésitez pas à m'interrompre ou à compléter mes propos. Alors, vous êtes originaire de la métropole lilloise, plus particulièrement de Wavrin, dans les WEP, où vous avez grandi. Entre engagement sportif, culturel et politique. Alors votre papa était artisan, votre maman travaillait à l'éducation nationale et votre parcours scolaire est un petit peu atypique. Vous avez mis un petit peu de temps à trouver votre voie, vous avez expérimenté différents métiers dans les domaines du commerce, de la comptabilité, de l'hôtellerie, de la restauration et même dans les ressources humaines, vous avez travaillé pour de grands groupes comme Total,
et Suez.
Suez, et puis aussi vous avez travaillé pour le conseil
régional des Hauts-de-France, en tout cas du Nord-Pas-de-Calais avant la fusion, et puis je travaillais dans l'équipe effectivement de Pierre de Saint-Ignon, que j'appréciais particulièrement, qui du coup m'a mis le pied à l'étrier en me permettant de développer avec lui et son équipe le pacte pour l'avenir de l'emploi des jeunes. C'était un dispositif qui avait pour but de développer le circuit court et de rapprocher le monde des jeunes, plus particulièrement ceux dans les missions locales, du monde de l'entreprise.
Alors dans la vie, vous aimez créer du lien, des connexions entre les humains et la nature. Et c'est en 2014 que vous décidez de devenir directeur de campagne pour les municipales de la commune de Wavrin. Et puis vous êtes aussi conseiller municipal. Et ensuite, vous avez découvert Emmanuel Macron. Et vous êtes engagé en fait à ses côtés pour la campagne présidentielle En Marche. Et puis en mai 2017, vous devenez candidat à l'élection législative dans la 5e circonscription du Nord. Pardon. Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu cette étape en fait de pouvoir en fait proposer ses services à la population et que la population en fait vous interroge, vote pour vous et faire face en fait aux critiques aussi, c'est pas toujours évident.
La nature de mon engagement politique est née d'une volonté de pouvoir en fait rendre à la société ce que la société avait pu m'apporter à travers les infrastructures sportives, puisque du coup j'ai fait du handball quand j'étais enfant et j'ai pu bénéficier gratuitement des salles de sport, des bibliothèques municipales de Wavrin et j'en passe. Et donc l'idée, c'était après la majorité avec une jeune expérience de vie, j'avais envie de donner du temps à la collectivité. Donc c'est la raison effectivement pour laquelle je suis devenu directeur de campagne sur les élections municipales pour du coup une liste dans laquelle je me retrouvais au niveau des valeurs. Et puis ensuite
cette liste est passée.
Les élections n'ont pas été profitables à la liste.
D'accord.
Donc je suis devenu conseiller municipal, mais d'opposition. Mais en fait, ma volonté, moi, c'était de pouvoir servir la population. Donc je l'ai servi pendant 6 ans. Et donc j'ai été membre de différentes commissions, entre autres la commission urbanisme, la commission d'appel d'offres, la commission accessibilité. Ça a été très enrichissant pour moi. Ça m'a permis de découvrir encore un peu plus la question de la dépendance des seniors, de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap aux bâtiments communaux. Ça m'a permis aussi de réfléchir à l'aménagement des territoires. entre autres à la construction du nouveau groupe scolaire à Wavrin. Très enrichissant. J'ai vraiment appris, j'ai grandi. Ça m'a permis du coup de prendre un peu de hauteur. Et puis, en parallèle de mes études, hein, ça, puisque du coup j'étais en alternance, étudiant. Comme vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, au conseil régional chez Total et chez Suez, eh bien j'ai pris aussi, enfin je me suis aussi intéressé à la question de la formation professionnelle. Et donc à l'époque, j'étais au niveau du Parti Socialiste à Solferino. Enfin, je m'étais un petit peu engagé sur la commission de la formation professionnelle, la commission nationale. Et donc là, je me suis un petit peu engagé, hein, très humblement, mais sur les questions du compte personnel de formation.
D'accord.
Donc, avec l'idée d'individualiser le parcours de formation
des salariés.
Donc là aussi, c'était très intéressant. Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'ai, comme vous le disiez à juste titre, on dirait que j'ai déjà une biographie sur Internet, c'est formidable. Vous faites bien les choses. Effectivement, je me suis intéressé à Emmanuel Macron, à l'époque où, du coup, il était ministre. Et puis, au fur et à mesure, j'ai découvert ce que sont devenus les jeunes avec les fondateurs avec Macron.
Qui sont devenus En Marche.
Exactement. Et puis ensuite, en avril 2016, du coup, En Marche est née à Amiens. Et puis du coup, j'en faisais partie. Puis au fur et à mesure, effectivement, je me suis engagé dans la Grande Marche en juillet 2016. Et puis ensuite.
Candidat.
La Grande Marche, ensuite la campagne présidentielle. Ouais. J'étais effectivement coordinateur de la 5e circonscription du Nord. Pour la République en marche, et puis ensuite effectivement candidat investi pour les législatives. Et donc là j'ai fini effectivement au premier tour et je me suis fait rattraper au second par le député sortant des Républicains.
Alors comment vous avez vécu ça? Vous aviez quoi, 30 ans?
28 ans. Donc une expérience de vie très enrichissante sur le plan humain, parce que du coup je me suis retrouvé confronté à des gens qui connaissaient le chômage par exemple depuis deux générations. Donc c'était ça prend en trip. Je me suis aussi rendu compte de la question de la dépendance des seniors à nouveau, par exemple sur le fait que certaines personnes âgées, une fois que du coup en fait leur compagnon est décédé et qu'il suffit que du coup en fait la personne restante en vie n'a pas de véhicule pour se déplacer ou n'a juste pas le permis de conduire, et ben en fait elle se retrouve du coup bien vite isolée. Et ça, c'est des choses qui m'ont vraiment ému, en tout cas impacté. Et puis après, je me suis rendu compte aussi d'autres enjeux, que ce soit le chômage des jeunes, que ce soit aussi les enjeux de mobilité avec une thrombose axe routier et ferroviaire qu'on peut retrouver dans beaucoup de métropoles et en particulier sur celle de Lille. Et puis ensuite, le problème de l'autonomie alimentaire du territoire, qui a été assez prégnant.
Alors vous dites autonomie, pourquoi? Parce qu'en fait, dans les Hauts-de-France, on n'est pas autonome.
Eh ben oui, je me suis rendu compte en prenant un peu de hauteur qu'on était la deuxième région de France en terres agricoles, qu'on avait deux tiers de ces terres qui étaient à l'agriculture, et quand on discutait avec les centrales d'achat de la grande distribution, pour certaines d'entre elles, je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas en capacité, du coup, d'être autosuffisants avec, du coup, la production régionale.
D'accord.
Tout simplement parce que du coup,
On
produit pas assez à destination humaine. Et donc, ma volonté a été, en plus d'un constat national, c'est que le monde agricole connaît le plus fort taux de suicide en France. Il me semble, le chiffre, le dernier que je connais, moi, c'était en 2016, si je ne m'abuse. Et on était à 516 suicides d'agriculteurs par an.
Waouh.
Pour moi, c'est inquiétant. J'étais pas, du coup, vous l'avez rappelé à juste titre tout à l'heure, j'étais pas du tout issu du monde agricole, hormis, une petite appétence avec le potager familial, mais, très humblement, je suis pas issu du monde agricole.
Et là, vous avez décidé de créer votre boîte.
À un moment donné, je me suis dit, si un jour je dois être à nouveau candidat aux élections législatives, si éventuellement je dois entrer dans un gouvernement et porter la thématique de l'agriculture, en fait, j'aimerais bien avoir été agriculteur, connaître les difficultés, créer de l'emploi non délocalisable et essayer de nourrir les gens humblement avec un modèle d'agriculture de transition qui soit respectueux de l'environnement. Qui soit faiblement consommateur d'eau et d'énergie et qui réponde aux enjeux du moment. Et donc j'ai créé ce que j'ai appelé l'éco-village.
Oui.
Donc en gros, on est sur une ferme aquaponique.
C'est quoi ?
L'aquaponie, c'est très simple. En fait, on reproduit un environnement naturel dans lequel on va faire de l'élevage de poissons. Les excréments de poissons sont chargés de ions à ammonium. Et en fait, via le cycle de nitritation, on va dégrader l'ammoniac en nitrite et le nitrite en nitrate. L'ammoniac et le nitrite ne sont pas absorbables par le système racinaire des légumes. En revanche, le nitrate, oui, et c'est la raison pour laquelle on a besoin de deux familles de bactéries naturelles, donc la Nitrosomonas et la Nitrobacter, pour transformer un déchet en engrais et ensuite faire une boucle d'économie circulaire. Le système racinaire des légumes va absorber les nitrates, purifier l'eau en quelque sorte, et le renvoyer. Et par écoulement naturel, l'eau va revenir dans les bassins de poissons. Ce qui permet d'être en circuit complètement fermé et recirculé avec zéro rejet d'effluent.
Mais les plantes, elles poussent comment alors?
Avec du coup, en fait, les excréments de poissons.
Et donc, les racines sont dans...
dans l'eau, sur des radeaux flottants.
D'accord.
En dessous, en fait.
Très bien.
Faut venir visiter, j'invite tout le monde à venir visiter.
Vous êtes basé où ?
On est à Saintes.
Qui se trouve ?
Entre Lille-la-Bassée, sur la 5e circonscription du Nord.
D'accord. À côté de Wavre.
De Gondecourt.
Et de Gondecourt, et de Seclin. Voilà. Je vous propose, Guillaume, de sélectionner une première question dans notre boîte à questions. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes avec Guillaume Deconinck, qui est président fondateur de l'éco-village situé donc dans les web à Saintes. Alors, quelle est la première question, Guillaume ?
Alors, ma question est, quel est ton mot, ton slogan préféré ?
Alors, est-ce que pour l'éco-village, vous avez un slogan ?
Il me semble que c'est alimentation d'excellence en aquaponie. Mm-hmm. Mais du coup, si j'avais un slogan qui se rapproche un peu plus du coup en fait de l'environnement entrepreneurial, oui. Je reprendrais une citation d'Hergé qui me touche assez, qui dit que l'homme à force de croire en ses rêves en fait une réalité.
Très bien. Alors, je vous propose de resélectionner une question, Guillaume Deconinck.
Pour changer le monde, par quoi commencerais-tu ? J'ai pas vu les questions avant, hein. Va falloir que je réfléchisse.
Déjà, vous avez commencé à changer le monde en vous engageant socialement et politiquement, et aussi dans l'entrepreneuriat. Vous avez en fait créé des emplois avec la ferme.
À l'éco-village, on a créé effectivement 5 équivalents temps plein.
D'accord.
Comme je suis un pur produit de l'apprentissage, il me semblait intéressant de pouvoir favoriser l'apprentissage au sein de l'entreprise. Et donc, j'ai recruté 2 salariés en CDI, donc des équivalents temps plein en CDI, et ensuite 2 apprentis, donc au lycée aquacole de Coulogne, et puis ensuite dans des écoles d'ingénieurs agro.
En alternance, alors, en fait.
Exactement, en alternance.
D'accord.
Et puis, on prend dans la limite du raisonnable, puisque je suis dans une entreprise de moins de 20 salariés, et donc je suis contraint à maximum 3 stagiaires en même temps. Donc, en général, je reçois beaucoup de stages, enfin de stagiaires, pardon, mais c'est toujours dans la limite du raisonnable. Donc, parce que beaucoup ont envie de se reconvertir dans des modèles d'agriculture de transition. C'est la raison pour laquelle on accueille des assistants comptables en reconversion, des journalistes en reconversion, enfin, voilà.
Alors Guillaume, on est bientôt arrivé au milieu de l'émission, et dans l'émission Le Tour de la Question, c'est l'invité qui fait la programmation musicale, et je vous ai demandé de nous proposer un titre à écouter, et vous avez choisi quel titre ?
C'est la première chanson de la bande originale du film Le Peuple Migrateur de Jacques Perrin. C'est un film que j'ai particulièrement apprécié parce que du coup, il essaye de donner la part belle du coup à la nature et plus particulièrement aux animaux. Et puis Le Peuple Migrateur, je trouve que du coup, en fait, dans cette période qui met souvent du coup en opposition les peuples, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir un peu comme du coup les animaux en fait dépassent ces clivages là pour pouvoir envisager de vivre convenablement à travers la planète.
Alors je vous propose de prendre notre envol sur RCF Hauts-de-France avec la BO du Peuple Migrateur.
Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, cross mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every hill, for everyone a little tear, I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide, across the borders that divide, forests of stone standing petrified, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a single tear, I cannot explain this, dear, I will not even try. For I know one thing, love comes on a wing. For tonight I will be by your side, But tomorrow I will fly. From the deepest ocean to the highest peak, through the frontiers of your sleep, into the valley where we dare not speak, to be by your side.
Le peuple migrateur, la bande originale du film de Jacques Perrin sur RCF Hauts-de-France.
Le tour de la question, Maxime Delcourt.
Vous êtes bien sur RCF Hauts-de-France dans l'émission Le Tour de la Question avec cette semaine Guillaume Deconinck qui est président et fondateur de l'éco-village situé dans les WEP à Santes qui produit des aliments d'excellence grâce à l'aquaponie. Alors Guillaume, vous êtes venu avec des plantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez ramené dans nos studios?
Complètement. Je vous ai ramené des plantes pour que vous puissiez goûter en studio.
On va aussi demander peut-être à François de venir goûter parce que je sais que François aime bien la bière mais aussi beaucoup les légumes.
Ça va être compliqué de lâcher les manettes.
Alors on y va. Qu'est-ce que vous
Donc on pourrait commencer par des choses assez neutres du coup en goût. On va commencer par des moutardes japonaises. Donc vous pouvez goûter celle-ci.
Alors c'est quoi la moutarde japonaise?
Donc là c'est une moutarde de souche japonaise qui en général vous avez souvent l'habitude de déguster.
C'est la salade.
Oui, c'est de la. Enfin, vous en général on a l'habitude de travailler les graines. Hein, pour faire de la moutarde conventionnelle, enfin qu'on a l'habitude de retrouver dans les pots de différentes marques. Aujourd'hui, nous, en fait, on a pris le postulat que les feuilles sont aussi très savoureuses.
Ah oui, c'est marrant.
Et donc, c'est la raison pour laquelle on travaille ça auprès de nos clients, les restaurateurs gastronomiques, les étoilés de la métropole illoise et de la Belgique.
Ah, très sympa. Effectivement, on sent le goût de la moutarde, mais c'est assez léger et frais.
C'est léger.
Ouais,
j'essaie de faire plusieurs gammes qui sont plus ou moins piquants.
D'accord.
Et donc, je vous ai ramené du coup la plus neutre.
D'accord.
Et puis maintenant, vous allez pouvoir passer à quelque chose d'un petit peu plus oser.
Donc ça, c'est de la salade aussi verte
C'est une moutarde, c'est toujours une moutarde, mais qui s'appelle la moutarde pizzo. Donc
d'accord. Et comment on l'utilise dans quel plat?
Et ben là, en fait, en salade. Et là, vous allez voir, c'est un peu plus piquant, ça s'apparente un peu au wasabi.
Ah oui, ouais.
C'est très très
c'est frais aussi.
Ah, c'est frais.
Dans les salades et tout l'été, ça va être.
Là, moi, je recommande vivement, en fait, sur ce type de mesclin, de travailler vraiment, enfin, de les travailler juste avec un petit filet d'huile assez neutre et de ne même pas utiliser de vinaigre, puisque pour moi, c'est vraiment une salade qui suffit largement à elle-même. Enfin, elle est très savoureuse.
Et ça, vous produisez ça toute l'année? Oui, des saisons.
Ouais. Enfin, on respecte les saisons à l'éco-village, mais l'objectif, effectivement, est de tirer la saison de manière à du coup, pouvoir en avoir sur la plus grande période.
D'accord. Donc ça, c'était deux salades.
Exactement.
Moutarde.
Là, vous allez goûter du fenouil.
Ça, le fenouil, c'est quelque chose de classique.
Mais au général, en grande distribution ou dans les commerces, vous allez trouver le bulbe.
Oui, c'est ça.
Et en fait, nous, on travaille plutôt en fait les fans. Et vous allez voir, en fait, c'est très très sympa.
Ah,
c'est
oui,
très très joli.
Ouais.
Ouais, c'est très sympa.
Et donc ça, on l'utilise en quoi?
Ah bah du coup, enfin dans des desserts, dans des entrées, dans des plats, enfin. Si vous êtes intéressé, je vous donnerai des recettes de différents chefs clients de chez moi qui du coup l'accommodent dans plein de choses.
Alors justement, qui sont
j'ai même des sorbets, des chefs qui me font des sorbets avec ça. Enfin, c'est assez intéressant.
Vos clients, à part des chefs étoilés, c'est qui?
Ce sont les traiteurs.
Ouais.
Ensuite, ça va être les particuliers. Tous les samedis matins, on organise un marché. Enfin, on est présent sur le marché de l'Anversart.
D'accord.
Place du Bourg, à côté de l'église.
D'accord.
Ce qui est intéressant, c'est que après juste en mai 2021, on a démarré notre présence sur le marché. Et puis, moi, je me disais qu'il fallait absolument qu'on arrive à démocratiser l'alimentation qu'on distribue plutôt au profit des chefs des restaurants étoilés gastronomiques, plutôt à destination des particuliers. Et avec mon petit culot habituel, je disais aux particuliers qui sont venus sur le stand, je ne vous vends pas de légumes tant que vous les dégustez pas.
D'accord.
Et donc alors certains ont passé leur chemin, mm-hmm. Et puis en fait la majorité se sont arrêtés et ont goûté par curiosité. Et puis aujourd'hui, ce sont ces clients-là qui sont mes ambassadeurs auprès des autres nouveaux clients qui découvrent l'aventure de l'éco-village.
Très bien.
Parce que nos légumes ont énormément de goût, et puis on a une belle histoire à raconter avec le modèle d'agriculture qui est faiblement consommateur d'eau et d'énergie. Et puis surtout, il n'y a aucune pulvérisation de produits phytosanitaires. C'est vraiment notre engagement, notre marque de fabrique. À la place de ça, on utilise des insectes auxiliaires qui viennent manger les insectes nuisibles.
D'accord.
On n'utilise pas d'insecticides. Ça, c'est vraiment très très intéressant.
Quelle est votre gamme de produits?
On fait sur la partie poisson, sur la partie piscicole, on travaille la truite arc-en-ciel pour l'instant.
D'accord.
Et sur la partie légumes, alors là, je suis parti un petit peu loin. On a co-construit notre plan de culture avec une vingtaine de chefs sur la métropole illoise. Et on a sélectionné un peu plus de 315 variétés de légumes sur l'année.
Waouh.
Donc ça fait beaucoup sur une surface effective de culture de 1175 m². J'entends les bacs de culture. Sinon, on a construit 3600 m² de serre, mais ça fait effectivement sur la saison, enfin sur les 4 saisons, 315, c'est pas mal. Mais par contre, on est en capacité de vous dire que je ne brûle pas de gaz pour chauffer l'hiver et de faire de la tomate en plein hiver. Et par contre, vous avez des légumes d'hiver. Les serres là sont continuent à être pleines avec des légumes de saison.
Alors Guillaume de Conin, vous êtes venu avec des légumes, mais aussi avec un livre, puisque dans l'émission, comme vous le savez, les invités viennent avec un livre qu'ils souhaitent recommander aux auditeurs. Vous êtes venu avec quel livre aujourd'hui ?
Eh ben, je suis venu. Alors j'ai beaucoup hésité avec beaucoup de livres, mais je me suis dit qu'il était intéressant de rendre, de valoriser un ouvrage qui a été écrit par Jean-Marc Jancovici et Monsieur Blin, qui est une BD qui parle en fait des enjeux climatiques et qui s'appelle Le Monde sans fin.
D'accord. Et qu'est-ce qu'elle raconte cette BD ?
Et donc en fait, elle explique de manière assez ludique comment en fait, comment aujourd'hui s'envisage, comment on peut, enfin comment on arrive à comment dire à comment
comment intéresser les gens à... tout ce qui est environnement.
Alors, enfin, ça, et puis c'est surtout en fait, enfin, j'y arrive, excusez-moi. Comment en fait il arrive à faire un peu de pédagogie sur le fait que quelles vont être la totalité des énergies qui vont être générées, par exemple, pour faciliter la vie en fait des êtres humains. Du coup, si on traduit ça très concrètement, quelle quantité d'hommes il faudrait pour par exemple pousser une voiture ou alors pousser un tracteur ou en tout cas générer la force que j'arrive à générer. Ouais. Et donc en fait, il explique parce que du coup voilà, enfin il est un peu pro nucléaire quand même, et donc l'idée ici c'est de valoriser, enfin d'expliquer comment en fait du coup la France s'est construite à travers du coup en fait l'industrie du nucléaire. Enfin ça c'est un bouquin qui est assez intéressant. Alors enfin c'est pas forcément à recommander aux enfants de jeune âge parce que ça reste une BD, mais c'est assez ludique pour les adultes et donc pour ceux qui sont intéressés.
On rappelle le titre ?
Oui. Donc c'est Le Monde sans fin, du miracle énergétique à la dérive climatique.
Très bien. Nous sommes dans la dernière ligne droite de l'émission Le Tour de la Question avec aujourd'hui Guillaume de Coninck, président et fondateur de l'Écovillage qui produit des aliments d'excellence grâce à l'aquaponie. Alors dans cette dernière partie, je vais refermer la boîte à questions et je vais sortir les trois questions, Guillaume, les trois questions incontournables de l'émission. Je vous demanderai pour cela de me faire des réponses courtes ou d'activer votre joker que vous avez toujours en votre possession. Alors voici ma première question. Pour vous, qui est Dieu ?
Alors, pour moi, ça reste un point de vue personnel, mais pour moi, en fait, Dieu se trouve en chacun de nous. J'aime à dire que chaque être humain doit trouver son propre potentiel à être ce qu'il est. Et donc, pour moi, en fait, Dieu est en nous, que ce soit dans les légumes, que ce soit auprès des animaux ou chez les êtres humains.
Ma deuxième question, de quoi êtes-vous le plus convaincu personnellement ?
Que l'humanité est très riche et que pour moi c'est vraiment important de l'écouter et de s'écouter en tant qu'être humain. Je suis convaincu que on a plein de choses à apporter chacun de nous et que dans le respect des uns et des autres on peut contribuer au rayonnement de l'humanité, mais dans ce cas-là de plus beau.
Voici ma toute dernière question de notre émission avec Guillaume de Coninck cette semaine. Quel est votre signe d'espérance pour les prochaines générations, Guillaume ?
Mon signe d'espérance, aujourd'hui, pour moi, en fait, les jeunes générations, je ne sais pas si je dois considérer que j'en suis sorti ou pas à 33 ans, mais je pense que les jeunes générations ont pris conscience de ces fameux enjeux climatiques dont, du coup, en fait, on parle partout, tout le temps. Et donc, l'espérance, c'est que les jeunes générations prennent leurs responsabilités et s'engagent encore un peu plus pour un meilleur, pour l'humanité.
Alors, c'est déjà la fin de notre émission, Guillaume de Coninck. Merci d'avoir participé à notre émission. Si vous deviez résumer en un mot le moment qu'on vient de passer ensemble, ça serait lequel ?
Joie.
Eh ben merci, la joie partagée. On rappelle vos coordonnées. L'éco-village se trouve
au 2 chemin de Neuville à Santes. Vous pouvez nous trouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. J'ai une chaîne YouTube, mais j'ai pas encore l'occasion d'être YouTuber. Et du coup, sur le site e-commerce, leco-village.fr, leco-village.fr.
La réalisation de l'émission est signée François Bertin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Tour de la Question. D'ici là, restez fidèles à RCF, puisque chez nous, la joie se partage.